enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Josué, chapitre 3. Oui, Josué, chapitre 3. Le cinquième et le sixième verset. Et la deuxième lecture, Paul est où? Jérémie, chapitre 12, versets 5 et 6. Apparemment, aujourd'hui, nous sommes 16. Jérémie 12, 5, 6.
C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ses prêtres mirent les pieds dans l'eau. Les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance, à partir de la ville d'Adam, située à côté du Tsartan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent.
Ne vous en faites pas, vous avez... Ça c'est la version Semeur. Elle peut être un peu différente. Ok? Vas-y, lis n'importe quelle version. On va
retrouver Jérémie 12, toutes les
versions. Oui, Jérémie 12.
Du 5e au 6e verset. Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux?
Ce matin, je voudrais faire du bien à quelqu'un. Tu t'épuises déjà en courant avec les piétons. Mais quand ça va être avec les chevaux? Tu as mal à la tête, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais le jour où on va t'opérer, est-ce que quelqu'un me saisit? Je voudrais ce matin élever ton niveau de foi. Comment tu peux t'épuiser? Merci beaucoup. Comment tu peux t'épuiser déjà en courant avec les piétons? Mais quand ça va être avec les chevaux? Amen. On va y aller progressivement. Si je ne termine pas, je vais terminer mardi. Ça peut être ceux qui voudront m'écouter, les mardis viendront. Amen. Josué chapitre 3, verset 15, la version de TED, elle est une version de Semeur. Mais dans d'autres versions, ça dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Dans d'autres versions, le Jourdain déborde. Est-ce que vous me saisissez? Le Jourdain fait quoi? Il déborde quand? Non. Il déborde quand? Le temps de quoi? Et quand encore? Quand les sacrificateurs, ils veulent mettre les pieds, le Jourdain fait quoi? Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, quand tu commences à voir que dans ta vie, des agitations se produisent, c'est que tu veux traverser vers Canaan. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est quand tu veux le mettre le pied, que le Jourdain fait quoi? Il déborde. Bien-aimé, imagine-toi que quand l'eau déborde, qu'est-ce que tu fais? Tu vas fuir. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Je voudrais te dire ce matin, n'aie peur de rien. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Et regardez, pendant tout le temps, le Jourdain est calme. C'est le moment de la moisson. Qu'est-ce que c'est que la moisson? C'est le moment où tu veux récolter. C'est le moment où tu veux manger les fruits de tes souffrances. C'est le moment où tu veux obtenir ce que tu veux. C'est à ce moment-là que le Jourdain dit, non, moi je vais déborder. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, le temps de ta moisson est arrivé. Amen. Mais le problème, c'est que cet après-midi, ce matin, soyons prudents aux facteurs qui vont agir avant la moisson. Le premier facteur qui agit avant la moisson, le débordement. L'eau déborde dans tous les sens. Simplement pour t'effrayer. Simplement pour te décourager. C'est pourquoi le texte de Josué nous dit, si tu te fatigues déjà avec les piétons, Jérémie, si avec les piétons tu te fatigues, mais avec les chevaux, tout simplement parce que Dieu nous appelle à des grandes choses. Voilà pourquoi il a appelé Cana le pays où coule le lait. Vous avez un peu d'histoire. Dieu m'a fait grâce. Je reviens d'un voyage en Israël, il y a quelque temps, non? Quand je parle ce texte, je comprends. Le Jourdain est dans une vallée. Et partout au monde, aller dans les instituts géographiques du monde, aller dans toutes les stratégies militaires, ils vont vous dire que le positionnement du Jourdain est un positionnement compliqué. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est lui-même qui l'a placé là. Je bénis le Seigneur parce qu'il a voulu que le Jourdain soit ce qu'il est. Et deuxième chose, le Jourdain est un fleuve qui délimite deux pays. La Jordanie et Israël. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le Jourdain délimite deux territoires. Le territoire du désert et le territoire de la fertilité. C'est sur ça que je voudrais que vous compreniez. Les géographies, là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Que les géographes fassent leur travail. Nous allons parler du spirituel. C'est-à-dire que le Jourdain est la limite entre, d'un côté, le désert et de l'autre côté, la terre fertile. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est au temps de la moisson que le Jourdain fait quoi? Déborde. Réfléchissons. Le peuple d'Israël est en train de venir. D'où c'est? Ils viennent d'où? Aidez-moi quand même. Ils viennent d'où le peuple d'Israël? Mais ils viennent d'Égypte. Ils viennent du désert. Oh, allez, réveillez-vous un peu. Alléluia. D'où vient le peuple? Il vient d'où? Ah, je veux que tu dises ça pour que tu comprennes. Il vient d'Égypte, en passant par Mara, en passant par les déserts, en passant par la chaleur. Il arrive à la limite qui s'appelle quoi? Jourdain. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au Jourdain, ils ont fait quoi? Et donc, s'il y a la moisson, où est la moisson? C'est de l'autre côté. Ça ne peut pas être là où ils sont. Parce qu'ils doivent traverser pour entrer où? Dans la moisson. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'il y a un temps où Dieu va te soulager de tes fatigues? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Regardez le parcours. Pharaon, esclavage, on a tué, on les a fait faire des travaux. Ce n'est pas fini. Dieu dit, je les libère maintenant. Mais les libère comment? Dans la souffrance, dans le désert, dans la chaleur. Ils ont regretté même des concombres. Ils ne mangent pas comme ils doivent manger. Ils arrivent maintenant au Jourdain. Si ça aurait été toi et moi, tu allais dire, enfin. Mais c'est au moment où tu veux rentrer dans la moisson que l'eau dit, moi je vais t'arrêter. Alléluia. C'est-à-dire que la moisson et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du désert. Non, du côté de la fertilité. Et que le peuple est arrivé pour mettre fin entre le désert et entrer dans la fertilité. L'obstacle s'appelle Jourdain. C'est au moment de la moisson. Au moment où tu veux récolter le fruit de tout ce que tu as semé dans la souffrance. Au moment où tu veux récolter le fruit de tous les temps que tu as mis dans une entreprise. La parole de Dieu nous dit que pendant 40 ans, ils ont tourné comment? Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont arrivés au Jourdain. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, le Jourdain arrivera. Oh.
Amen.
Non, ce matin, vous ne m'encouragez pas. Je ne suis pas à l'aise ce matin. J'aurais bien voulu aller prêcher à Kinshasa. Ah, si j'ai donné ce message à Kinshasa, je vous dis, ça va être terrible. Quelqu'un est capable de se lever pour dire « preach ». Vous comprenez qu'à Kinshasa, on parle l'anglais. Vous êtes tellement sérieux. Vous êtes. Les lendemains sont assurés. Mes lendemains sont. Donc je ne peux pas comparer mes lendemains à mon hier. Même si mon hier est un hier de souffrance. Bien-aimé, mets-toi à la place d'un Hébreu qui est devant le Jourdain. Il allait dire, encore. Parce que depuis qu'il était sorti, il ne faisait que dire, ah, ah, ah. Qui connaît le ah, ah? Oui, il y a un texte qui dit ça. Si quelqu'un me trouve, je lui donne une Bible de cadeau. Mais le Jourdain est le fleuve que Dieu lui-même a choisi pour délimiter, pour faire la frontière entre le fertile et le stérile, qui s'appelle le désert. Le désert est le stérile. Bien le même, mon frère, peut-être que depuis que tu as commencé, ta vie professionnelle est stérile. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas. Tu sembles faire quelque chose, mais elle ne produit pas. Peut-être que tu es ici dans la salle, que tu es une dame. Ta vie du couple est stérile. Laisse-moi te dire qu'il y a un temps où Dieu a fixé une frontière. Amen. Pour t'amener de la stérilité à la fertilité. Amen. Alléluia. Dieu a prévu dans sa tête, Dieu a prévu dans son calcul qu'on passera par la stérilité, on passera par le désert. Et Dieu a dit à la stérilité, tu ne les poursuivras pas parce que je mettrai une frontière pour vous séparer très bien. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu va s'organiser pour que tout ce qui est dans le stérile ne dépasse pas et n'entre pas dans le fertile. Parce que Dieu ne veut pas que le fertile soit abîmé. Dieu veut que le stérile reste au stérile. Ou est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est Dieu lui-même qui a tracé une frontière. C'est Dieu lui-même qui a mis une limite. Comme pour dire au stérile, poursuis là, jusque là où tu veux. Fais avec elle tout ce que tu veux. Mais un jour, je vais t'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, non, je suis content ce matin. Parce que mes lendemains sont assurés. Parce que mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés par qui? Pas par la géographie, mais par Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu utilise la nature pour nous faire faveur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la nature sera en ta faveur. Oh, la nature sera en ta faveur. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi, il a dit non. Comment je vais faire cette histoire pour mettre fin au désert qui est stérile? Eh bien aimé, la configuration du désert m'amène à parler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Sable, chaleur, cailloux. Voilà. Écoutez-moi bien. Chaleur, sable, cailloux, pas d'eau. Ces quatre choses sont importantes dans la marche. Elles ne permettent pas une bonne marche. Tu peux avoir de très beaux souliers, mais sous des pierres, ce n'est pas confortable. Même si ce sont des souliers adaptés, vous me saisissez?
Amen.
Tu peux être en décolleté, mais quand il fait chaud dans le désert, ton décolleté, ça peut te pousser à t'enlever même le décolleté. Je suis dans une logique. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le désert va t'amener à te dénuder, à te rendre ridicule. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un saisit ma logique? Il n'y a pas d'eau. Ça va te mettre dans un état où, non, tu ne peux jamais. Bien aimé, vous n'avez jamais vu. Vous allez voir que pendant l'été ici, nous serons beaucoup nerveux. Vous allez voir, l'été rend nerveux. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Et voilà les conditions de quelqu'un qui est dans le désert. Il ne peut même pas. Le sourire part parce que la chaleur te met dans un état inconfortable. C'est-à-dire que tout ça, non simplement tu ne marches pas comme il faut, non simplement tu n'es pas confortable, non seulement le désert veut t'amener à poser des actions pour que jusqu'à ce que même tu puisses t'enlever, être honteux, Dieu a prévu que tout ça doit s'arrêter un jour. C'est-à-dire que Dieu ne permettra pas que tu ailles jusqu'à la honte. Dieu ne permettra pas que tu ailles jusque que ton état soit toujours un état de nervosité. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, je vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Qu'elle fasse quoi? Qu'elle inonde vos cœurs. Dieu a besoin qu'après avoir, vous n'avez jamais vu, quand pendant l'été tu prends un coca frais, comme on... Alléluia. L'intention de Dieu, c'est de faire en sorte que toutes les sueurs que tu as emmagasinées, toutes les souffrances que tu as endurées, qu'ils t'amènent dans un endroit où tu peux faire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a mis une frontière. Dieu a mis une frontière pour dire à tout ce qui t'a fait mal que vous resterez, mais qu'il ira dans la paix. Qu'il va faire... qu'il va arriver dans le soulagement. Bien-aimé, je vous dis ça parce que c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Parce que la vérité, il n'y en a pas deux. Elle n'est que dans la parole. C'est la parole qui nous garantit ça. Alléluia. Donc, c'était une frontière. Une limite entre deux existences. L'existence de la stérilité et l'existence de la fertilité. L'existence où les promesses ne sont pas réelles et l'existence où les promesses sont réelles. L'existence où on peut se fatiguer et l'existence où on est calme parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, c'est-à-dire que tu viens simplement avec un gobelet. Tu prends. Cela ne veut pas dire qu'à Canaan, Dieu n'a pas prévu le travail. Dieu a permis que quand tu arrives à Canaan, que ton travail te produise, que tu sois satisfait de ton travail. Dieu n'a pas dit qu'à Cana, nous allons nous asseoir comme ça, puis nous allons voir des robinets de lait. Non. Non. Il a prévu qu'à Cana, nous allons travailler. Mais de ton travail, tu peux acheter une voiture. De ton travail, tu peux acheter un appartement. De ton travail, tu peux te permettre des vacances. Pas de travail où un salaire, tu calcules jusqu'à devenir fou. Depuis que tu as commencé à travailler, tu ne fais que des calculs, des sacrifices. 6 mois sacrifice, une année, tu as un peu plaisir, 3 semaines, et puis après, tu rentres encore 4 ans, sacrifice pour dépenser 20 euros. C'est, non, si je dépense, non. À Cana, Dieu a prévu que nous travaillons. Mais que tu gagnes quelque chose, tu peux aller en vacances. C'est ça, Cana. Alléluia. Le pays coule le lait. C'est-à-dire que Dieu veut que nous changions de standing. Amen. C'est dans l'intention de Dieu changer un standing. Alléluia. Amen. Où coule le lait et le miel? 90% des vacanciers en France se sont privés toute l'année. Je ne mens pas. 90%. Tout celui qui se dit, oh, je vais en vacances. Nous savons pourquoi tu vas en vacances. Nous savons que tu as fait beaucoup de sacrifices. À moins que tu sois. Mais si c'est vraiment tous les boulots de France, 90% des salariés en France vivent des sacrifices. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, dans son intention, c'est qu'à un moment donné, qu'il te fasse entrer dans une vie où tu peux te satisfaire. Tu travailles, mais tu dis, voilà le fruit de mon travail. Alléluia. Et c'est ça, le Jourdain. Le Jourdain pour le chrétien doit être le lieu où il y a la séparation entre le stérile et le fertile. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé où? Dans le Jourdain. Parce que le baptême dans l'eau est synonyme de laisser l'ancienne vie, et ressortir avec la nouvelle vie. Donc le Jourdain n'est pas simplement un lieu de baptême, mais un lieu où l'ancienne vie reste et je repars avec une nouvelle vie, celle de la fertilité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, dès le départ, a voulu que Jésus-Christ de Nazareth soit baptisé dans le Jourdain. Et la parole de Dieu nous dit que là où on avait baptisé Jésus, il y avait 12 pierres qui étaient restées en bas. Voilà pourquoi quand ils ont traversé le Jourdain, la parole de Dieu nous dit que quand les sacrificateurs ont mis les pieds, ils ont récupéré toutes ces 12 pierres pour partir avec ces pierres. Symbole que du Jourdain. Jourdain. Le Jourdain est l'endroit où, après avoir erré, après avoir tourné en rond, après avoir essayé et échoué, après avoir tenté ci et là, après avoir frappé à telle porte qu'on n'a pas ouvert, le Jourdain est l'endroit où Dieu dit, j'ai compté tout ce que tu as fait, j'ai vu tes souffrances, tu vas les laisser dans l'eau et tu vas passer vers l'autre côté. Voilà le sens du Jourdain. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est au moment de la moisson, au moment où tu veux récolter, au moment où tu veux manger quelque chose, c'est à ce moment-là que le Jourdain commence à déborder. Alors le problème, c'est que quand le Jourdain déborde, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Alors regardez-moi, tu recules vers où? C'est-à-dire que quand le Jourdain déborde, l'intention du Jourdain, c'est quoi? Que tu restes dans la stérilité, que tu restes là où ce n'est pas fertile. Donc ce matin, n'aie pas peur de tout ce qui déborde devant toi. Amen. Ce que je te demande, mets le pied. Alléluia. Parce que le problème de tout ce qui déborde devant toi, c'est faire en sorte que tu ne traverses pas la frontière. Amen. Et pourtant Dieu a prévu que tu puisses traverser la frontière. Dis à quelqu'un qui est avec toi, à côté de toi, je traverserai parce que Jésus l'a voulu. Ah bon? C'est ça la réalité. Ce ne sont pas les flots qui vont t'amener à traverser. Dieu a prévu que tu traverses le Jourdain. Dieu a prévu que la frontière s'établisse. Donc les flots, quand les vagues, les flots viennent, l'intention des vagues et des flots, c'est que tu recules. Mais tu vas reculer où? Là où tu as pleuré, là où tu as regretté. Dieu a prévu que toi, tu laisses les regrets, mais que tu ailles au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Même si tu as tourné en rond, Dieu a prévu une limite. Dieu a prévu une limite. Amen. 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 Tu arriveras au Jourdain. Parce que le Jourdain, non simplement était la frontière, mais le Jourdain était la porte. Le Jourdain était la porte. Bien-aimé, supposons que ça soit, c'est un mur d'ailleurs. Tu as trouvé l'endroit où tout ce que tu as cherché, tu peux te faufiler et partir. C'est-à-dire que Dieu, dans son raisonnement, en créant le Jourdain, c'est qu'il savait que pendant toute la traversée, ce peuple n'a pas trouvé des portes. Ce peuple avait besoin de sortir. Ce peuple avait besoin d'être libre. Mais ils étaient emprisonnés. Ils étaient oppressés. C'est pourquoi Dieu a prévu que la porte d'entrée de la fertilité, c'est le Jourdain. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai une clé. J'ai une clé. J'ai une clé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai une clé. Alléluia. C'est-à-dire que le Jourdain était un endroit où il tourne là. Ça. Mais le problème, c'est que Dieu avait prévu un endroit. C'est pourquoi j'aime beaucoup Dieu. Dieu est un fin stratège. Goliath s'était habillé de telle manière qu'on ne puisse pas l'atteindre. Alléluia. Mais Dieu a prévu, dans son habillement à lui, Dieu a prévu qu'il laisse une ouverture. Et c'est dans cette ouverture-là que Dieu a inspiré David. Je voudrais dire ce soir, c'est dans tout ce que tes adversaires font, c'est dans ce qu'eux ils font, ils vont laisser une place pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire que la place par laquelle tu vas entrer, ce n'est pas toi qui vas la découvrir. C'est lui-même qui va se tromper. Lui, il va croire qu'il a bien fait. Parce que Goliath, quand il venait avec sa tenue, il était sûr que personne n'allait la battre. C'est pourquoi la Bible dit que pendant 40 jours, il a terrorisé tout le monde. Oh, qui peut m'affronter? Qui peut? Tout le monde, personne. Quand David est arrivé, David a dit, je vois une ouverture ici. Comme lui-même a laissé l'ouverture. Il était bien blindé ici partout. Mais il a laissé l'ouverture où? Pourquoi il n'a pas laissé l'ouverture ici? Parce que Dieu s'était organisé pour que s'il laisse l'ouverture ici, il ne va pas mourir. Tu le tues ici, il résiste. Dieu a prévu qu'il laisse l'ouverture là où il va lui-même mourir. Dis à celui qui est à côté de toi, mes ennemis mourront.
Alléluia.
Alléluia. C'est Dieu. C'est Goliath lui-même qui a mis son armure. C'est lui-même qui a prévu que bon, je vais laisser une ouverture. C'est lui-même. Mais c'est dans l'ouverture que lui, il a laissé que David est rentré. C'est dans l'ouverture que ton ennemi laissera que Dieu te fera entrer.
Amen, 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 amen.
Alléluia. Ah, David a dit, ok, d'accord. Comment toi, tu as terrorisé les gens pendant 40 jours? Et il l'a atteint là où il a fait quoi? Il est tombé. Alors maintenant, écoutez, je vous explique un peu. La Bible dit que son armure pesait 40 sicles. À peu près 400 kilos. C'est-à-dire que non simplement la pierre l'a atteint ici, mais il était tombé par le coup de la pierre et il est tombé par le poids de son armure. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ce que l'ennemi a fait, c'est ce qui va l'engloutir. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est-à-dire que 400 kilos sur toi, est-ce que tu vas te relever? Bon, maintenant la question que je pose, tu vas accuser qui? Qui t'a habillé de 400 kilos? Oh, dis à quelqu'un. Alléluia. Ton ennemi non simplement mourra, mais il se tuera.
Amen.
Alléluia.
Amen, amen, amen.
C'est-à-dire que quand David lui a donné le coup ici, il est tombé. Mais ce n'est pas qu'il est tombé. Ces 400 kilos l'ont terrassé.
Amen.
Comment tu peux te relever avec 400 kilos? Impossible. K.O. Bien-aimé, Dieu est un bon Dieu.
Amen.
Ne sois pas impressionné par la taille de ton adversaire. Ne sois pas impressionné par ce qu'il fait. C'est pourquoi la parole nous dit dans le deuxième texte, ne te fatigue pas en courant avec les hommes. Parce que devant toi, il y a des chevaux. Exerce-toi. Le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous croyons que nous minimisons trop. Nous ne nous voyons que dans des petites choses. Nous ne nous voyons que dans les moins. Non, nous ne sommes pas faits pour courir avec les humains. Cela tout simplement veut dire que Dieu ne nous a pas créés pour nous défier les uns les autres, pour nous affronter Dieu les uns les autres. Dieu nous a créés pour affronter les défis qui sont devant nous. Voilà pourquoi au jardin, il a dit « assujetti, domine ». Il n'a pas dit que tu assujettisses ton frère, que tu assujettisses les défis qui vont être devant. Bien-aimé, sois grand. Et on ne peut commencer à être grand dans la tête. Alléluia.
Alléluia.
Ne sois pas grand en taille. Il y a des gens comme frère Chouongo là ou frère Robert. Long là. Comme frère Josué, costaud. Mais ils sont petits. Dieu ne veut pas ça. Sois grand là. Quand tu es grand là, tu vas être grand comme ça.
Amen.
Quand tu parles, quelqu'un t'écoute et dit cela, on ne lui dit pas n'importe quoi. Cela, on ne joue pas avec lui. Mais tu as fait quoi? Parce qu'on a vu que ce que tu dis, on sent que tu es grand.
Amen.
On sent que tu es sérieux.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, pourquoi de temps en temps? J'ai dit aux jeunes filles, soyez des grandes. Quand tu mets un truc jusque-là, tu n'es pas grande. Alléluia. Parce que n'importe qui va taper. Je vous donne des petits exemples. Chez nous, je ne dors pas. Droumer. Alléluia. Amen. Chez nous, en République démocratique du Congo, je ne sais pas si dans d'autres cultures, on appelle les filles comme ça, quand elles passent en cours de route. On dit... C'est parce que justement, ou bien les jours où on te fait, tu t'arrêtes, c'est fini. Je te dis, ma soeur, c'est fini. Le monsieur dit, bon, j'ai attrapé une chienne. Dans sa tête, c'est une appellation. On appelle qui comme ça? Les chiens. Comme tu t'es arrêté pour le garçon dont tu es, vous voulez que je dise ce que le chien fait? Vous voulez que je vous dise ce que le chien fait? Vous avez des chiens quand ils s'accouplent, même en plein midi. Quand tu es grand, ce n'est pas dans ta taille. Ce n'est pas dans ton habillement. Voilà pourquoi la sœur Euphrasie nous a dit ici dans la veillée, si aujourd'hui nous ne gagnons pas, c'est à cause de nos mentalités. Nous sommes beaux dehors, nous sommes grands dehors, nous sommes formidables dehors, nous sentons des bons parfums, mais de notre raisonnement, c'est la petitesse, c'est la bassesse. Dieu nous a préparés pour l'excellence, Amen. La grandeur. Amen. Dieu ne nous a pas préparés pour de petites choses, des petits combats, des rien du tout. Non. Alléluia. Bien-aimé, il y a une porte. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as longtemps tourné, il y a une porte. Cette porte, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est de la réalité. C'est quelque chose que Dieu a déjà fixé. Elle viendra. Peut-être qu'aujourd'hui tu es ici. Je dis que tu es en train de tâtonner ici. Mais laisse-moi te dire, ne te décourage pas, avance. Est-ce que vous savez que celui qui a mis la fenêtre ici, c'est celui qui a conçu ce bâtiment. Ce n'est pas nous qui habitons là-dedans. C'est celui qui a prévu ce bâtiment qui a dit, non, entre la distance là et la distance là, je mets une fenêtre ici. Mais aujourd'hui, toi, tu es ici. C'est-à-dire que quand tu as commencé ici, tu te dis, mais Boudin, Dieu a prévu que tu trouveras une issue de sortie. Dieu a prévu ça. Continue à chercher. Mandaire pour aller loin. Amen. Élargis l'espace de tes poumons. La seule façon d'élargir ta foi, c'est d'y mettre la parole. Alléluia. Avant-hier, j'ai parlé avec un frère qui va se reconnaître dans l'exemple. J'ai donné. Qui aime le football ici? Qui a vu le match Milan c'est Liverpool? Qui a vu ce match-là? Milan s'est mené combien? Mais deuxième mi-temps, en 12 minutes, 6 minutes, pardon, 6 minutes, ils ont remis les 3. Et à la fin, ils ont fait quoi? C'est-à-dire que Milan s'est avait la force, mais Liverpool avait un peu plus de force. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit, si tu cours avec les hommes, et que tu te fatigues. La force là, tu ne peux pas la mettre avec un cheval. Parce que le cheval va te dépasser. C'est que Dieu nous appelle à avoir de l'espace de force en nous. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Pour revenir au Jourdain, la parole dit, si tu ne te crois pas en sûreté, et si tu ne te crois en sûreté, non seulement hautain, avant que le mépris arrive, tu ne peux rien lui apprendre. Il se suffit. Voilà le mot que je cherche. Un orgueilleux, c'est suffit. Et c'est ça le Jourdain. Toi, tu veux le dépasser. Il se met devant toi. Tu dis, mais attends un peu. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas m'impressionner en rien. C'est-à-dire que l'orgueilleux est quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui. Qui ne peut pas accepter qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que lui. C'est-à-dire que le Jourdain, les flots du Jourdain, sont en train simplement de te dire que tu ne passeras pas. Les fleurs de Jourdain sont en train de te dire, parce qu'ils sont orgueilleux. Mais le problème, c'est que moi, je te demande ce matin, pense que l'orgueil de l'adversaire qui est devant toi ne dépasse pas l'orgueil de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi dire quelque chose peut-être qui va faire mal. Dieu est l'homme le plus orgueilleux de la vie. Amen. Il n'est pas orgueilleux parce qu'il l'est, mais sa qualité fait de lui le plus orgueilleux. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'homme comme lui. Sa beauté est enviable. Sa puissance est enviable. Tout est enviable en lui. Comme tout orgueilleux dans la vie. Un orgueilleux veut qu'on le voit. Alléluia. Mais le problème, c'est que Dieu ne veut pas qu'on le voit. Mais Dieu, quand on le voit, on tombe. Est-ce que vous comprenez la nuance? L'orgueilleux de la vie s'arrange pour qu'il passe l'endroit pour que Dieu, comme il y avait une ouverture dans la cuirasse de Goliath. Dans ce qui te fait mal là, Dieu est au milieu. Mais il attend simplement un moment. Non, j'ai dit encore un deuxième mot. Je ne veux pas que ce soit interprété. Dieu, c'est le plus grand traître. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Elle dit, il va faire un complot avec toi. Avec l'ennemi, il dit, ok, on y va chez Nico. On fait le complot. Il attend simplement le moment où ils vont arriver pour exécuter. Là, il change de plan. Et maintenant, il te dit, Nico, pour que tu gagnes, tourne seulement à gauche. Et puis il part, il sort à la porte. Grand traître. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais terminer. Quand vous regardez Canaan, je reviens un peu sur la géographie. À Canaan, il y a des lacs, il y a des eaux. C'est-à-dire que Dieu a prévu que ce que tu as manqué hier, tu puisses le retrouver là où il a préparé pour toi. La seule chose qui ne nous amène pas à aller loin, c'est l'incertitude de Canaan. Est-ce que c'est vrai, le lait et le miel coulent? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si tu ne te crois en sécurité que dans une terre paisible, que feras-tu? Beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises, ils n'ont pas encore traversé Canaan, mais ils se contentent de ce qu'il a. Et du coup, ils ne voient plus Canaan. Il est là, avec ce qu'il a. C'est pourquoi la parole de Dieu, si tu ne te crois en sécurité que dans une terre paisible, aujourd'hui, tu crois être en sécurité parce que tu as quelque chose. Dieu ne t'a pas prévu à ce que tu as. Dieu a prévu Canaan. Dieu a prévu plus que ce que tu as. Donc, ce que tu as n'est pas une sécurité. Ce que tu as n'est qu'une étape. Ce que Dieu te prépare, c'est plus que Canaan. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'évoluons pas parce que c'est ce que nous avons qui nous fait croire que ça ne sert plus à rien d'aller à Canaan. Je peux m'arrêter, je peux rester là-bas parce que j'ai déjà. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si tu te crois en sécurité que dans une terre paisible. Oh non, moi maintenant, comme j'ai tout, ça va. Alléluia. C'est un peu comme, vous voyez, des frères et des sœurs qui, pendant qu'il est fiancé, il est tout le temps à l'église. Il prie bien en langue. Il donne bien ses offrandes, tout simplement pour que la sœur voit qu'il est vraiment converti. Alléluia. Amen. Tu vois, moi, je prie, elle. Tu vois, moi, je... Le problème, c'est qu'il est en train de chercher la sœur. Le jour où il a pris la sœur, fini. Il ne donne plus. Il commence à faire des problèmes à sa femme. Toi, tu donnes beaucoup d'argent à l'église, toi aussi. Toi aussi, tu commences à exagérer, toi aussi. Hier, tu étais à la veillée, aujourd'hui, tu pars encore. Le pasteur aussi doit savoir que nous, on a une vie de couple quand même. Mais avant, alléluia, alléluia. Mais avant, quand tu cherchais la sœur, tu ne voyais pas les veillées que c'était embêtant. Hein? Alléluia. Tu venais à toutes les veillées. Hein? Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit là-bas, ça, Zui. Il a déjà reçu, c'est ça. Alléluia. Ne te crois pas en sécurité avec ce que tu as. Alléluia. C'est bien, bien aimé. Moi, peut-être que je parlerai ça quand je parlerai au couple. La femme que tu as, ce n'est pas une garantie qu'elle peut être la tienne jusque demain.
Amen.
L'homme que tu as n'est pas une garantie que ce sera celui-là jusque demain. C'est la façon dont tu vas être avec lui, avec elle,
qui va garantir le lendemain. Amen. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Tu l'encourages aux choses de Dieu. Dieu s'occupe de ta femme. Amen. Dieu la prépare. Alléluia. Hier, j'étais allé bénir un mariage et puis j'ai dit au frère, attends un peu. Aujourd'hui, dans nos églises, nous faisons des choses terribles. J'ai envie de révolutionner. C'est la fête des mamans aujourd'hui. Hein? Je vous souhaite bon anniversaire. Et je voudrais vous révolutionner un tout petit peu. Je voudrais mettre quelque chose dans vos têtes aujourd'hui. Vous allez trouver aujourd'hui, il y a... Bonne fête. Bon, mais c'est l'anniversaire, c'est chaque année. Chaque année. Bon, bonne fête, bon anniversaire. Okay. Pardonnez-moi, bonne fête. Bon, ok. Je voudrais révolutionner un peu les mamans ce matin. J'ai prévu ça dans ma tête. Je disais au frère là qui s'est marié hier, je lui ai dit, Alex, j'ai fait comme si c'était toi le frère. Tu as pris Placidia, elle était belle. C'est toi qui dois faire tout pour que sa beauté soit conservée. C'est pas elle, c'est toi. Tu rentres dans Mariono. C'est pas elle de rentrer à Mariono. C'est à toi d'aller à Mariono. Tu regardes, tu te poses la question à la dame. Quel est le lait? Quand une femme met, elle devient belle. Dis-moi le lait. Alléluia. Amen. C'est toi. Tu demandes à la dame un parfum de qualité. Parce que dans ta tête, tu veux conserver la beauté de Placidia. Tu veux conserver le niveau de Placidia. Parce que tu as voulu une femme comment, hein? Belle. Tu dois la rendre belle. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous les hommes là, la femme se débrouille avec ses 15 euros, ses 10 euros, ses 5 euros pour acheter son ceci, son cela. Alléluia. Et le frère attend simplement quand on dit, ah, mon frère, tu as une belle femme. Et puis il dit, tu n'as rien donné. Tu t'enorgueillis de ce que tu n'as pas fait. Frère, nous devions nous repentir. Alléluia. Frère, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous nous repentons souvent simplement pour des péchés. Mais nous sommes en train de rendre nos femmes moches. Alléluia. J'ai dit au frère hier, frère, tu l'as choisi parce qu'elle est belle. Il faut que cette beauté demeure. Fais, investis dans la beauté de ta femme. Investis. Alléluia.
Amen.
Tu rentres dans un magasin. Ah, Alex, je ne sais pas, tu as fait mal d'être devant moi, mon jeune. Tu, aux Champs-Élysées, là, qui a dit que Placidia ne peut s'habiller qu'à Barbesse? Qui a dit ça? Tu passes aux Champs, tu regardes, tu dis, ça vaudrait la peine. C'est ça, rendre sa femme belle. Mais nos pauvres femmes, elles font ça. Alléluia. Pour mettre une bonne robe, elles économisent 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alléluia. C'est bien quand c'est les frères. Hein? Ça se retournera un jour. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est les frères, il n'y a pas de problème. On avance. Si nous vous avons fait mal à ce point, nous vous demandons pardon. Mais votre jour viendra. Alléluia. Et toutes les façons, il y a quelque temps ici, nous avons dit, Crispin, il va juste, nous avons fait un dîner ici, non? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais retourné le but. Oh! Jusque-là, le but marqué n'a jamais été retourné. Même c'est une fois. Mais vous n'avez jamais fait l'inverse. Nous nous sommes fait ouvriers. On vous a servi comme si vous étiez des reines, comme vous êtes. Mais depuis lors, amen, nous continuons, nous revenons aux rives du Jourdain. Nous sommes à la frontière entre les stériles. C'est-à-dire que Dieu a prévu que là où il n'y avait pas de cours d'eau, que les cours d'eau se retrouvent. C'est ça, traverser Jourdain, c'est aller vers ce qu'on n'avait pas hier. C'est aller vers ce qui va apaiser nos souffrances d'hier. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit hier, vendredi, au culte du soir, la seule chose qu'il faut que tu fasses pour traverser le Jourdain, c'est accepter de te mouiller. On ne peut pas traverser une eau sans se mouiller. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas se mouiller. C'est-à-dire que les flots du Jourdain sont comment? Or, celui qui refuse de se mouiller, il est quoi? Qui? Or, c'est ton orgueil qui fait que quand tu arrives devant les flots, un orgueil, tu dis, ah, si toi tu crois que tu es orgueilleux, je vais te prouver que moi aussi je suis orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste au... C'est parce que chaque fois que nous avons un obstacle devant nous, nous ne voulons pas résoudre avec Dieu, mais nous voulons le résoudre avec nous-mêmes. Notre moi, c'est notre orgueil. Notre moi, c'est que Dieu n'existe pas. Je vais régler cette affaire moi-même. Ce matin, dis-toi dans ton cœur, Seigneur, devant moi, il y a un flot. Il y a des eaux qui sont en train de déborder. Avec toi, je voudrais franchir ça. Je te dis que tu vas aller. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais par ta puissance à toi. Le problème dans nos églises, tous les défis qui sont devant nous, tous les obstacles qui sont devant nous, nous voulons les résoudre avec notre orgueil. Et voilà, c'est sur ce point que je voudrais terminer. Bien-aimés, combien aujourd'hui dans nos églises, dans nos couples, l'orgueil n'a pas tué les couples. Il y a des couples, il y a des gens ici dans cette salle, ils s'aiment. Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas, mais ils s'aiment, mais chacun veut garder son orgueil. Voilà pourquoi l'amour ne peut pas se retrouver, parce que ce sont les deux orgueils qui s'affrontent. Amen. Qu'un accepte de tomber, l'amour va rencontrer l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Si aujourd'hui nous n'allons pas loin, c'est à cause de l'orgueil. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, que feras-tu devant les flots orgueilleux du Jourdain? L'adversaire va t'affronter avec l'orgueil. L'adversaire va te dire, je vais te prouver. L'adversaire va te dire, tu ne me passeras pas. Mais toi, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Dans nos églises aujourd'hui, nous ne voulons pas être humbles. Dans nos couples, nous ne voulons pas être humbles. Dans l'église, nous ne voulons pas être humbles. Dans le travail, nous ne voulons pas être humbles. Nous sommes des orgueilleux. Mais des orgueilleux, pas des orgueilleux qui font comme ça sur la rue, pas des orgueilleux, mais calmes. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, je t'ai dit, tu peux servir ton mari à table, tu peux le servir, pardonnez-moi, au lit, tu peux le servir en tout, mais tu es orgueilleuse. Tous les services ne veulent pas dire que tu n'es pas orgueilleuse. Tu peux servir en tout, mais tu es vraiment habité de l'orgueil. Et d'ailleurs, j'inverse la chose. À cause de ton orgueil, voilà pourquoi tu ne le sers pas à table, tu ne le sers pas au lit, tu ne le sers... Ah, c'est-à-dire l'orgueil est dans tous les deux sens. Dans le sens comme dans le sens. Mais maintenant, on commence à trouver des raisons. Comme il m'a fait mal, je vais le prouver. Ça ne s'appelle ni plus ni moins que de l'orgueil. Vice versa, hein, pardonnez-moi. Je parle là des hommes et des femmes. Non, je n'exclus pas. Orgueil. L'orgueil. C'est pourquoi ce texte nous dit, que ferez-vous devant les flots orgueilleux? Quand l'orgueilleux va se mettre devant toi, que feras-tu, Alex? Ah, mon cher petit, tu es moi, ma cible ce matin. Le jour où Placidia essaie d'hausser le ton, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je parle concrètement. Maintenant, on laisse les flots du Jourdain. Les flots, c'est Placidia. Les joues, elles montent un peu. Que feras-tu? C'est ça la question que Dieu pose. Les jours où Alex montera, que feras-tu, ma fille? C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu nous attend. Les jours où quelqu'un s'élève, que feras-tu? J'ai prévu qu'on termine comme ça. On a parlé des Jourdain. Flo, ok, je laisse tout ça. Maintenant, c'est toi, tu es le Flo, moi, je suis le Jourdain. Quand les flots vont faire, que feras-tu? Mais le problème, c'est que nous venons à l'église, nous adorons, nous chantons, mais nous sommes dans le flot. Nous ne pouvons pas traverser les frontières, nous ne pouvons pas quitter la stérilité, tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de nous débarrasser de notre orgueil. Alléluia. Alléluia. Vous allez trouver un jeune homme, une jeune fille, quand tu le regardes, la façon dont il regarde sa maman. J'ai dit bien sa maman. Attends un peu. C'est l'âge. Hein? Attends un peu. La beauté. Hein? Attends un peu. La coiffure. Hein? Attends un peu. C'est quoi? Les yeux là que tu regardes ta maman là. C'est-on dicté par quoi? Les Français? Alléluia. Quand devant les flots, que feras-tu? Que faisons-nous dans nos maisons? Que faisons-nous? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas entrer à Cana. Voilà pourquoi nous restons dans la stérilité. Voilà pourquoi on ne peut pas franchir les limites. Parce que nous répondons à l'orgueil par l'orgueil. Nous répondons à la colère par la colère. Nous répondons à l'insulte par l'insulte. Nous répondons au crime par le crime. Nous ne traverserons jamais les frontières. Nous serons toujours dans la stérilité. Alléluia. Et pourtant, l'intention de Dieu, c'est que nous traversions. Mais si nous ne traversons pas, orgueil. Alléluia. Il y a des orgueils, il y a des orgueilleux et des orgueilleuses. Il ne parle pas, mais il agit. Il agit. Alléluia. Alléluia. Comment ça va? Que feras-tu? La question c'est, que feras-tu? Devant les flots. Alléluia. C'est vrai. Ta femme n'a pas préparé la semoule à l'heure. C'est vrai. Elle n'a pas fait ce que tu lui as demandé. C'est vrai. Mais la question, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Que feras-tu, toi? C'est ça la question. Devant les flots, devant la chose qu'elle n'a pas fait bien, devant la semoule qu'elle n'a pas bien préparée, devant le retard qu'elle est arrivée à la maison, c'est bien. La parole n'a pas dit, tu dois juste, que feras-tu? Devant le retard de Placidia, que feras-tu? La question n'est pas posée à Placidia, mais elle est posée à toi. Tout ça parce que il faut que tu dépasses. Dieu te veut à Canaan. Dieu te veut au supérieur. Dieu te veut au meilleur. C'est pourquoi il te dit, que feras-tu? Mais souvent dans nos églises, on dit non. Seigneur, avant que je te dise ce que je dois faire, qu'elle m'explique d'abord. Elle doit d'abord m'expliquer. Mais quand il a manqué l'eau à Mara, tu n'as pas demandé d'explication. Tu as bu simplement. Tu as vu que l'eau qui était amère, il était capable de changer en l'eau potable. Ne demande pas d'explication du retard de Placidia. Toi, fais ce que Dieu fait. Demande, Dieu va s'occuper d'elle. Comme le peuple devant l'eau à Mara a crié, Dieu a, c'est la même eau que Dieu a donné une autre forme. Laisse ta femme entre les mains de Dieu. Dieu va faire à condition que toi tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu ne fait rien parce qu'il doit passer par nous pour qu'il le fasse. Mais quand il demande, que fera, la question que je voudrais poser ce matin, c'est que je ne voudrais pas qu'on dise, que feras-tu? Qu'on pose la question, que feras-tu? Je te pose la question. Depuis tous les temps, qu'as-tu toujours fait? Voilà pourquoi tu n'as jamais traversé les frontières. Voilà pourquoi tu es toujours dans les stériles. Voilà pourquoi tu es toujours dans les malheurs. Voilà pourquoi quelque chose ne marche pas. Parce que le problème, c'est que nous voulons que les autres fassent, mais nous, nous ne faisons rien. Mais Amara, qui a transformé l'eau? C'était les cris? C'était les pleurs? C'était la soif? Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit à Moïse, dis aux enfants de faire quoi? De marcher. Quand ils ont commencé à marcher, Dieu a dit, ok, d'accord, allez, un morceau de bois, Moïse, jette pas. La même eau, la même femme là qui t'insulte tous les jours, entre les mains de Dieu. C'est la même eau qui était amère qui est devenue la femme que tu as là, meilleure du monde. Mets-la simplement entre les mains de Dieu. La change, frère. Tu es le plus heureux. Sœur, l'homme que tu as là, c'est le plus beau gosse de la vie. Alléluia. Amen. Laisse-le entre les mains de Dieu. Il le bouge. Terminé. Il était amer. Peut-être qu'aujourd'hui, il est amer. Amer dans ses propos. Amer dans son comportement. Amer dans ses réponses. Ah, il y a des hommes, ils ont des réponses. Maman. Il te bombarde une réponse. Tu n'as même plus l'appétit. ça te donne même sommeil, tu vas dormir. Il y a des réponses, la femme a envie même de sortir, d'aller prendre un peu de l'air. Parce que la réponse, elle fait des nerfs. Elle a envie de craquer. Alléluia. La même chose, il y a des femmes, elles ne parlent pas, mais elles te regardent. Tu prends les clés de la voiture, tu dis, je vais prendre de l'air. Tu dis, parce que si je reste là, le regard seulement dit tout. Mais si maintenant elle parle, elle te regarde seulement pour, c'est dit, elle te regarde, c'est ultimatum. Mais maintenant si elle passe à l'acte, fini. Fini. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une chose pour laquelle nous n'évoluons pas, c'est l'orgueil. Bien-aimé, ne nous trompons jamais. L'orgueil, ce n'est pas arriver devant Alex pour dire, Alex, j'ai 500 000 en banque. Ça, ce n'est pas l'orgueil, ça. Ça, c'est des choses. L'orgueil, c'est plus profond que ça. C'est alors même que je tiens Alex comme ça, que je parle avec lui, mais que dans le cœur, je suis en train de dire, regarde, ce type, il ne vaut même pas comme moi. Mais nous nous embrassons. Mais dans le cœur, je dis, mais ce type, qu'est-ce qu'il se croit? Il croit parce que je le tiens. C'est ça l'orgueil. Et Dieu sait, nous disons ça. Alors que nous nous embrassons, alors que nous disons Alléluia, Amen, nous sommes des orgueilleux. Nous sommes des orgueilleux. Alors que nous sommes en train de nous tenir dans la main ici, nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni. Pas du tout. Je dis bien pas du tout. Je répète encore, pas du tout. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien de mélancolique. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.